C'est un fait rarissime. Le 5 avril dernier, une magistrate, ancienne juge d'instruction notamment à Marseille et en Corse, puis vice-procureure à Toulouse ou Agen, a été mise en examen pour pas moins de 11 infractions. Hélène Gerhardt, c'est son nom, est mise en cause pour ses liens supposés avec le grand banditisme et notamment avec un homme, membre de la bande mafieuse corse Petit Bar. Une proximité qui l'aurait poussé à divulguer des informations sur des procédures en cours, mais aussi à utiliser sa position de juge pour collaborer avec cette figure du grand banditisme, et ce pendant près de 15 ans. Une affaire de corruption XXL dans la magistrature, deux enquêtes ouvertes à Marseille contre des greffières soupçonnées d'avoir aidé des trafiquants de drogue. Dernièrement, c'est l'antenne de l'OFAST, l'office anti-stup, à Marseille aussi, qui était perquisitionnée. Juges, greffiers, policiers, douaniers, dockers, comment la corruption s'installe peu à peu dans nos institutions? Comment le crime organisé, le narcotrafic obtient des faveurs de nos agents? Qu'en retire-t-il? Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com. Avec vous, nous allons revenir sur ces affaires de corruption qui se multiplient dans nos institutions. Bonjour Audrey Bailleul.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente à la GIRS, la juridiction interrégionale spécialisée. C'est la juridiction qui traite de la criminalité organisée. Et vous êtes membre de l'Union syndicale des magistrats. Avec vous, nous verrons comment cette corruption s'opère et quelles sont les difficultés pour lutter contre. Mais tout d'abord, Justine, revenons dans le Lot-et-Garonne, à Agen, où cette magistrate, Hélène Gerhardt, était en poste jusqu'à son interpellation et sa mise en examen. C'était donc au début du mois d'avril dernier.
Oui, c'était le 6 avril dernier. Stupéfaction, on apprenait que la magistrate avait été mise en examen, mais surtout placée en détention provisoire. Imaginez une juge, une vice-procureure qui se retrouve en prison face à des individus que potentiellement elle avait déjà rencontrés dans d'autres affaires. Les faits semblent suffisamment graves, en tout cas pour la justice, pour la placer en détention provisoire. Le point de départ de cette affaire, il se trouve à Marseille, c'est en août 2020. Un homme, Johan Carta, proche du grand banditisme corse, est placé sur écoute. Les enquêteurs écoutent ces conversations et c'est là que le nom de la magistrate apparaît pour la première fois. Cet homme, il aurait pu faire pression sur des ouvriers en charge de construire la maison secondaire de la magistrate qui, je vous le rappelle, était en poste en Corse pendant 5 ans jusqu'en 2016. Les enquêteurs découvrent aussi qu'Hélène Gerhardt était en relation avec d'autres personnes connues des services de police et de la justice, qu'elle aurait donné des conseils juridiques à ces personnes, mais pas que, qu'elle les aurait aussi renseignés sur des procédures en cours, des procédures judiciaires. De là, une nouvelle enquête est ouverte et les soupçons s'accumulent contre cette magistrate de 49 ans. De nouvelles infractions apparaissent au gré des investigations et des perquisitions, au trafic d'influence, à l'association de malfaiteurs, au recours au travail dissimulé, entre autres, s'ajoute le détournement de fonds publics. La justice soupçonne la magistrate d'avoir détourné plus de 120 000 euros grâce à sa fonction de juge d'instruction. Dans un communiqué, le parquet de Nice détaille la méthode. Hélène Gerhardt aurait utilisé son poste pour établir de faux documents visant à faire rembourser des frais de justice qui étaient en réalité fictifs. On ne sait pas qui aurait bénéficié de ces sommes.
Justine, que dit cette femme, Hélène Gerhardt, de ces accusations ?
En garde à vue, Hélène Gerhardt, elle a reconnu une consultation illicite de certains fichiers et des données pour le compte d'un homme qui est déjà connu des services de police et de la justice. Mais pour les autres infractions pour lesquelles elle a été mise en examen, je les rappelle, faux en écriture, usage de faux, détournement de fonds publics, travail dissimulé, trafic d'influence, association de malfaiteurs, blanchiment de délits, complicité de violation du secret professionnel, la magistrate nie tout. La défense de cette magistrate, qui est très appréciée et reconnue pour son travail tout au long de sa carrière, est montée au créneau pour dénoncer, je cite, « une enquête à charge menée avec un rouleau compresseur pour, je cite toujours, s'affranchir de toutes les règles procédurales ». Maître Yann Lebras et maître Cathy Richard, c'est les deux avocats de cette magistrate, s'en prennent, je les cite encore, à la violence institutionnelle du parquet de Nice. Depuis sa mise en examen, la défense de la magistrate s'est basée battu surtout pour obtenir sa remise en liberté. Et lors d'une audience, c'était le 16 avril dernier, Hélène Gerhardt s'est défendue, elle a pris la parole et elle assure n'avoir commis aucun crime et n'avoir jamais pactisé avec le grand banditisme. Elle a dans la foulée obtenu sa remise en liberté après 15 jours de détention provisoire.
Cette affaire de corruption semble hors norme. Pourtant, c'est un phénomène que l'on voit se développer dans nos institutions et c'est notamment lié à la progression du narcotrafic en France.
Oui, c'est un constat inquiétant qui a été fait par la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic qui a rendu ses conclusions cette semaine. Clairement, pour les sénateurs, la France n'a pas pris en compte la mesure de la menace de la corruption dans nos institutions. La commission, elle qualifie cette situation de corruption pour l'instant d'embryonnaire, mais une situation inquiétante avec une montée en puissance de la corruption. Clairement, les organisations criminelles utilisent aujourd'hui la corruption, utilisent des agents pour arriver à leur fin. Isabelle Jégouzeau, c'est la directrice de l'Agence française anticorruption. Elle a évoqué devant cette commission une augmentation de 40% des affaires de corruption. Pour la directrice de l'OFAST, l'Office anti-stup, Stéphanie Cherbonnier, la corruption est, je la cite, un des outils des trafics. Et la procureure de la République de Paris, elle a déjà lancé plusieurs alertes sur ces risques de corruption, car pour tous ces professionnels, la corruption en France, dans les institutions, est une réalité.
La conséquence, c'est qu'on se retrouve avec des affaires de corruption dans les commissariats et dans les tribunaux.
Oui, ces dernières semaines, de nombreuses affaires ont été révélées. À Marseille, deux enquêtes ont été ouvertes contre des greffières soupçonnées d'avoir renseigné des trafiquants de drogue. À la prison de Meaux, ce sont deux agents, dont une greffière de l'administration pénitentiaire, qui ont été mis en examen en décembre dernier pour un vaste réseau de corruption. En janvier, un vaste coup de filet contre un trafic de drogue est tombé à l'eau à Rennes. On soupçonne qu'une taupe au sein de la police a renseigné les trafiquants. Et donc, quand les policiers sont arrivés, il n'y avait plus personne, plus de marchandises. En mars, c'est un policier qui était condamné à Rouen pour violation du secret professionnel. Et début avril, fait rarissime, ce sont les locaux de l'antenne marseillaise de l'OFAST, l'Office anti-stup, qui ont été perquisitionnés, là encore, à cause de soupçons de corruption. L'IGPN, la police des polices, elle a révélé qu'entre 2021 et 2022, le nombre d'enquêtes pour corruption menées par ces services a doublé. Preuve que le phénomène de corruption s'intensifie avec une criminalité organisée de plus en plus inventive. Le chef de la section anticriminalité organisée au sein du parquet de Paris relevait en effet que les organisations criminelles aujourd'hui, elles recrutent des agents qui sont déjà en poste, mais elles font aussi passer les concours de policiers, de greffiers ou encore de surveillants de prison à leurs membres pour infiltrer les institutions.
Audrey Bailleul, je rappelle que vous êtes vice-présidente à la GIRS, la juridiction interrégionale spécialisée, et membre de l'Union syndicale des magistrats. La GIRS, c'est donc cette juridiction qui traite des dossiers liés à la criminalité organisée. Vous êtes donc les premiers observateurs de l'infiltration de cette criminalité jusqu'au sein de nos institutions. On parle d'une augmentation de 40% des affaires de corruption. Est-ce que vous constatez que la corruption est un phénomène grandissant ?
Alors, il faut effectivement faire un distinguo entre ce ressenti qui peut effectivement ressortir des différents faits que vous avez pu mettre en lumière, ces affaires effectivement particulièrement interpellantes, et puis la réalité de la corruption en France aujourd'hui, qui reste quand même un phénomène, vous l'avez vous-même souligné, assez embryonnaire. Cette augmentation des affaires, des soupçons de corruption, elle est là, elle est présente évidemment, et elle est très interpellante. Elle ne se traduit pas encore nécessairement par une série de condamnations ou d'affaires où la corruption de nos institutions, de manière systémique, aurait été démontrée. On reste quand même sur des faits qui sont par nature ponctuels.
La corruption, elle touche de nombreuses professions, les dockers dans les ports pour laisser passer la drogue, par exemple, les douaniers, les policiers, les greffiers et donc peut-être même aujourd'hui certains magistrats. Comment les têtes de réseau, selon ce que vous pouvez observer, comment le crime organisé parvient à corrompre ces agents dont, pour la plupart, la probité n'avait jamais été remise en cause ?
Alors, on entend souvent dire que finalement tout le monde serait corruptible, chaque personne dépositaire d'un peu de pouvoir ou d'autorité serait corruptible, que ce serait une question essentiellement de moyens. Et les moyens, c'est vrai que les narcotrafiquants les ont. Il n'y a pas de difficulté au niveau financier, nous parlons de milliards d'euros qui sont produits chaque année sur le territoire français. Je serais plus nuancée, je pense qu'il y a effectivement une question financière dans la corruption qui est importante, mais ce qui explique d'ailleurs que la plupart des agents qui sont sollicités refusent les actes qui leur sont demandés, il y a d'autres facteurs qui doivent jouer. Et là, c'est là que je pense qu'il faut mettre l'alerte, parce que effectivement, si les affaires ne sont pas encore forcément excessivement nombreuses, on a un risque, comme vous soulignez, qui lui est important et qui augmente très sensiblement. Le premier de ces facteurs, c'est la fragilisation des administrations régaliennes, peut-être, c'est-à-dire des conditions de travail, un manque de considération aussi au quotidien qui génère chez les policiers, les fonctionnaires, les membres de l'administration judiciaire, peut-être une frustration qui va les rendre plus sensibles à ces démarches de corruption et les rendre peut-être plus susceptibles d'être attirés par ces sirènes. L'autre facteur qui est très important, c'est la professionnalisation de ces narcotrafiquants et de leurs assistants dans ces démarches de corruption. On est sur des personnes qui sont excessivement bien renseignées, qui se rapprochent de personnes qui ont été identifiées comme fragiles, plus malléables, ou fragilisées par un événement de la vie. Par exemple, j'ai des affaires de corruption qui ont démarré lors des funérailles de l'enfant de la personne qui avait été ciblée. À ce moment-là, évidemment, vous êtes peut-être un peu moins vigilant et un peu plus susceptible de céder aux sirènes de la corruption.
Audrey Bailleul, que recherchent ces trafiquants quand ils corrompent des agents et qu'est-ce qu'ils en retirent ?
Les démarches peuvent concerner directement une affaire dans laquelle est impliqué le trafiquant. Ces démarches, elles se font en général auprès des personnes qui sont saisies du dossier pour permettre, vous l'avez souligné, peut-être d'obtenir des informations sur la personne, sur les personnes qui les mettent en cause, sur d'autres implications dans le dossier. On peut aussi, de manière plus générale, noter des démarches qui permettent d'obtenir des informations plus globales, d'accéder aux institutions judiciaires et policières afin d'y avoir des antennes et des informations qui circulent plus facilement.
La corruption, elle est qualifiée juridiquement, mais est-ce que c'est une infraction sur laquelle vous vous concentrez quand vous travaillez, quand vous ouvrez des enquêtes sur des trafics, sur de la criminalité organisée ? Est-ce que c'est facile, entre guillemets, de caractériser la corruption ?
La corruption est par définition évidemment un acte caché qui est peut-être plus difficile à caractériser dans un premier temps. Alors on a des soupçons de corruption dans un certain nombre de dossiers. La difficulté, c'est que les enquêteurs et les magistrats qui travaillent avec eux ont en général malheureusement besoin de prioriser les investigations, faute de moyens pour investiguer dans toutes les directions. Et donc on va effectivement se concentrer peut-être plus sur le narcotrafic et les trafics et les saisies qui sont réalisées que sur cet acte de corruption. Les faits de corruption sont par définition assez compliqués à prouver. Ils se déroulent dans la durée, de manière très insidieuse. Il faut notamment établir au niveau judiciaire qu'un pacte de corruption a été conclu entre le corrupteur et le corrompu. Ce sont des choses évidemment qui ne se font pas par écrit. Et c'est vrai que peut-être faute de moyens et faute de temps, essentiellement, ce n'est pas vers ces affaires-là qu'on se dirige en priorité dans le cadre du narcotrafic.
Il existe l'IGPN pour les policiers, il n'existait pas de service de contrôle pour les magistrats. Quels moyens pourraient être efficaces pour se prémunir de ce type de corruption selon vous ?
Alors, des contrôles de l'activité des magistrats, il y en a. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté, que ce soit au niveau hiérarchique, que ce soit le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, qui est régulièrement saisi, là encore, de demandes de la part de l'institution ou du justiciable. Après, effectivement, le constat que vous faites, il est réel. On a peut-être par des obstacles culturels, qui ont un peu limité, l'investissement dans cette question de la corruption. Je pense que pour tout le monde aujourd'hui, nous avons à l'esprit essentiellement que la corruption se développe dans les pays où les institutions sont fragilisées, où la démocratie est menacée, qui sont dévorées par le narcotrafic. Et pour résumer, je pense que très clairement, on a toujours considéré que la corruption était une menace qui considérait surtout l'étranger. Donc ça, c'est peut-être la première chose à changer dans notre approche culturelle. Avoir conscience que le risque est présent et être vigilant en amont à des démarches qui pourraient être faites. L'autre priorité qu'on pourrait se donner, je pense, c'est justement ce qu'on soulignait, c'est ce manque peut-être de temps, d'énergie ou de priorisation vis-à-vis des faits de corruption ou de délinquance financière. Je pense que si les moyens nous en étaient donnés, il serait fort efficace d'inverser peut-être le paradigme et de commencer à remonter les filières de blanchiment, le suivi des masses financières énormes qui sont dans les mains de ces trafiquants, et donc d'assécher peut-être cet aspect-là, cet aspect financier des dossiers, pour lutter en amont efficacement contre tous les risques de corruption que vous avez pu évoquer.
Merci Audrey Bayel d'avoir été avec nous pour ce décryptage.
Merci à vous.
Merci Justine. Affaire suivante, le podcast inédit, c'est bien sûr à retrouver sur le site bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.